Alors, hier à Québec, dépôt de ce projet de loi, le Fonds vert sera rebaptisé avec une nouvelle gouvernance, c'est-à-dire que ça va relever du ministre lui-même.
C'est une bonne idée. Il faut que le politique soit en charge de ce dossier-là, qui est extrêmement important au Québec. On a, par contre, une équipe à Québec qui laisse croire que ça va être un peu difficile. Là, je suis pas sûr qu'on a des joueurs de premier trio environnementaux. On entend beaucoup de choses qui sont un peu bizarres. Uber, c'est vert. Le troisième lien, ça va être vert. Le GNL, ça va être vert. Alors, est-ce qu'on va essayer de tout nettoyer vert et nous dire que...
Le ministre a mis des nuances ce matin par rapport à ce que
je l'ai trouvé franchement articulé. J'ai trouvé que c'était bien, mais il va falloir qu'on le détermine. Termine clairement un cadre et qu'on juge cette personne-là en fonction des résultats. Il peut y en avoir des résultats concrets en environnement qui pourraient être implantés de façon très rapide au Québec. Ils ont déjà dit qu'ils enligneraient 90 % du budget vers les diminutions de GES et 10 % vers une transition. C'est probablement l'inverse de ce qu'on a fait dans le passé. Et c'est important, je pense, l'imputabilité du ministre dans ce dossier-là. On peut pas s'en remettre à deux organismes avec des conseils d'administration qui n'étaient pas très clairs, avec des décisions qui n'étaient certainement pas claires. Alors, pour moi, c'est une excellente décision. Maintenant, est-ce qu'on a un plombier, un joueur de hockey plombier qui va devenir un joueur de premier trio? Je l'espère. J'espère que M. Charrette va se transformer en Gretzky de l'environnement.
En tout cas, ça va prendre un petit peu de temps parce que c'est la première fois que je vois un ministre de l'Environnement, que ce soit ici ou ailleurs, qui ne parle jamais d'environnement. À chaque fois qu'il parle d'environnement, c'est pour te dire que l'environnement pourrait être un outil pour développer les projets de son ami Fitzgibbon ou du premier ministre. On mentionne souvent GNL, etc., le troisième lien, tout ça. C'est, moi, un ministre d'environnement, je m'attends à ce qu'il me parle de forêt, qu'il me parle de biodiversité, qu'il me parle d'agriculture, d'achat local, de réduction des vols d'avion, de l'usage de l'automobile. Il n'en parle jamais. Il est tout le temps là en train... Il arrive tout le temps avec une nouvelle idée pour promouvoir un projet industriel ou un projet économique de ses amis qui l'ont sans doute boulié dans le hall avant qu'il fasse sa conférence. Mais j'ai hâte de voir la vision de M. Charest. J'ai hâte de savoir quand est-ce qu'il va parler d'environnement. Et lui donner tous les pouvoirs actuellement, il faudrait lui faire confiance. C'est ça l'empowerment. C'est d'abord, tu as confiance dans la personne. Après, tu dis « OK, vas-y tout seul ». Mais là, moi, j'ai pas confiance. Ce matin, il a dit que il n'y a pas de lien entre... Ça n'allait pas être des projets polluants. Hier, il a précisément dit le contraire. Il a dit, il se peut que ce soit des projets polluants, on va les rendre moins polluants, ce qui était l'approche du Parti québécois sous Mme Marois, avec M. Blanchet, qui était ministre de l'Environnement. Mais ça fait un bail. Et on n'est plus là, là. Les réchauffements climatiques, on a eu beaucoup de nouvelles informations qui nous disent, agissons tout de suite.
La bonne nouvelle là-dedans, c'est que ce que tu es en train de nous dire, c'est on va probablement prioriser des projets économiques. La bonne nouvelle, c'est que les choix écologiques deviennent de plus en plus économiques. Et on est capable de prendre des décisions aujourd'hui en fonction du budget qui est là. C'est 1 milliard par année. En 5 ans, en théorie, avec cet argent-là, on est capable de réduire nos émissions de probablement autour de 25 millions de tonnes de GES. En investissant l'équivalent de 200 $ par tonne de GES, on est capable d'y arriver. Maintenant, il faut identifier c'est quoi. Puis ça va prendre aussi un pouvoir coercitif. Parce que c'est bien beau d'avoir des belles intentions, mais si on n'oblige pas les gens à faire une transition énergétique, si on n'oblige pas, par exemple, Hydro-Québec à s'approvisionner en camions électriques, la SAQ à s'approvisionner en camions électriques, d'obliger aujourd'hui un transport Montréal-Toronto vert en utilisant par exemple l'hydrogène, on va passer à côté de belles opportunités. Il y a des projets qui sont très simples à mettre en place. La question de tout le transport qui est très énergivore, avec très peu de donneurs d'ordre, on est capable de leur dire, regardez, là, dans 5 ans, les boys, là, on s'en va en électrique ou en hydrogène sur de la longue distance.
Juste pour relancer, pourquoi je croirais le discours? Puis moi, l'exemple, tu l'as un peu effleuré. Là.
Ouais.
Moi, je me souviens du Parti québécois. Là. D'un côté, on nous annonce des éoliennes en Gaspésie. Après ça, on nous annonce la cimenterie mécaniste, la recherche de pétrole sur Anticosti. Tu sais, c'est comme...
Moi, je pense, Paul, que
l'économie, moi, écoute, je vais te prendre une image, là.
Ouais.
Je vois Charrette à la table du Conseil des ministres, là, dans la grande soucoupe, là, avec de l'autre bord, le ministre des Finances, Fitzgibbon, puis François Legault. pense que la discussion, ça va être de dire comment on enrobe le discours pour faire passer ça comme étant un projet vert.
S'il y a une grande faiblesse dans la CAQ, c'est son côté environnemental. Et si tu es un stratège politique puis tu comprends pas ça, tu vas avoir de drôles de surprises à ta réélection. Aujourd'hui, on pensait, comme Justin Trudeau, qu'ils vont passer comme une lettre à la poste. S'ils ne gèrent pas ce budget vert-là adéquatement, ça va être peut-être le signe de la mort pour eux.
Ben, je suis un peu d'accord parce que pour l'instant, tu sais, M. Charrette, il n'y a personne autour de lui et il n'y a personne en face de lui. As-tu vu un groupe environnemental s'afficher avec Charrette?
Non, mais là, il va y avoir un comité scientifique indépendant.
Oui, ben, le comité scientifique, il va falloir qu'il le recrute ailleurs parce que pour l'instant, bon ou non, ils vont certainement avoir des gens qui vont accepter moyennement paiement d'aller donner des conseils, mais pour l'instant, tous les professeurs d'université versés en questions environnementales, en énergie, tous les groupes environnementaux, tous dénoncent chacune des déclarations de M. Charrette. À un moment donné, il va falloir que M. Charrette se fasse des amis dans le camp environnemental. C'est une ministre de l'environnement. Tu verrais-tu ça, tu es une ministre de la culture qui n'a pas un musée, qui n'a pas un groupe de festival, qui n'a personne qui veut s'afficher avec elle. La ministre de la culture, elle ne t'offrait pas longtemps. Au moins, Mme Chassé, tu ne disais rien, c'est pas si pire. Mais là, lui, là, il faut qu'il se fasse des amis dans le monde environnemental. Et pour ça, il faut qu'il fasse des déclarations environnementales et qu'il y ait une vision environnementale. Et pour l'instant, on ne voit rien de tout ça. Et quand un seul. Puis la façon aussi d'articuler les projets, c'est tellement. C'est persillé de mensonges. Comme par exemple le projet de GNL Québec, quand il dit « oui, mais on ne regardera pas, c'est quoi la production de gaz qui est faite en amont? » Ouais, mais ce gaz-là, on va l'extraire pour l'exporter pour GNL Québec, mais on ne calcule pas jusqu'à temps qu'il soit rendu à la frontière, puis on ne calcule pas non plus le produit quand il part. Alors, on calcule juste ce qu'on veut calculer. Mauvaise nouvelle, le fédéral va vous bloquer. Le projet GNL Québec, là, il ne se fera jamais, pour deux raisons. Premièrement, parce que le fédéral a la maîtrise des cours d'eau, puis il ne laissera pas le Saguenay puis le Saint-Laurent être mis de côté dans le calcul des impacts environnementaux. Deuxièmement, il n'y a personne qui va l'acheter, ce gaz-là, en Europe, parce que c'est l'Europe qui est jugée comme le marché. En ce moment, en Europe. S'ils achètent un gaz, ils vont acheter du gaz européen. Ils vont pas acheter notre gaz à nous, sous prétexte qu'on va l'avoir enrobé avec une couche de verre.
Si tu m'ouvres la porte par rapport au gaz naturel, s'il y a un endroit où on est capable d'intervenir rapidement, c'est l'injection de biogaz à l'intérieur du gaz naturel existant ou l'injection d'hydrogène. Il y a des projets aujourd'hui en Europe très précis, on le sait, Énergir travaille également là-dessus, où on est capable de remplacer jusqu'à 20% du gaz naturel par de l'hydrogène. Et il se trouve que on est chanceux en maudit, nous autres au Québec, là, on a de l'électricité puis on est capable de produire de l'hydrogène à partir d'électricité entièrement verte. Alors, s'il y a un endroit où on est capable d'intervenir rapidement, c'est là-dessus et
d'accord.
Ça peut avoir un impact énorme.
Je suis d'accord là-dessus.
Maintenant, on a notre ami Benoît qui, maintenant, là, on y a établi c'est quoi son carré de sable. Ou si je continue dans l'analogie du hockey, sa patinoire. Fait que là, maintenant, on dit Benoît, ah ouais, on t'a passé à Puck, va en compter des buts. Et s'il se regarde tous les matins dans le miroir, petit à petit, il va se gonfler. Et là, il va être capable de dire « Je suis Benoît, je suis capable,
ouais, attends,
je vais sauver le Québec. »
Non, mais écoute, t'es positif, mais il reste que devant lui, il y a Legault et Fitzgibbon qui sont arrivés avec une vision de développement économique et qui n'ont pas réalisé que le chômage était rendu à 4,8% puis qu'on en avait plus besoin pendant quelques années de leur vision de développement économique, puis qui poussent pour ouvrir des nouvelles mines, puis qui vont dire à Benoît quoi faire. Et puis l'autre affaire...
Mais il n'y a pas un gouvernement qui respecte ce qu'il annonce. Trudeau n'a pas respecté.
Oui, il y en a qui ont passé la loi 21 rapidement. Là. Ils ont respecté ce qu'ils annonçaient.
Oui, mais non, je te parle en matière d'environnement.
Trudeau a quand même instauré aujourd'hui une méthode au niveau des GES avec un prix qui va augmenter de façon rapide. Là. En 2025, la tonne de GES va être à... 2023 va être à 50 $ la tonne. Je m'excuse, mais c'est un des grands mécanismes.
C'est pas si pire, il avait laissé Mme McKenna travailler seule dans son bureau puis ça a donné des résultats. Mais quand tu s'en mêles, par exemple, quand tu fais une déclaration à Greta Thunberg en disant « on va passer le pipeline, mais on va planter des pissenlits pour essayer d'absorber les effets de serre. » Là, ça chire un peu. Mais c'est un fait. Les gouvernements,
ça chire,
en ce moment...
c'est pas un mauvais jeu de mots. Hein?
C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui avait dit « Fais-moi signe quand ça va chirer. » Non, si ça chire, fais-moi signe. Mais tous les gouvernements, en ce moment, sont en train de prendre la mesure de la catastrophe, puis sont obligés de se repositionner. Disons que le gouvernement Legault se repositionne lentement. puis qui continue toujours dans la même voie du développement économique. Puis quand le ministre de l'Environnement, dans sa conférence de presse sur la relance, il va dorénavant tous les pouvoirs d'environnement, puis ça, la phrase qu'il dit dans sa conférence de presse, c'est « Oui, on va en faire des projets polluants, mais on va essayer de les rendre moins polluants. » Il n'a pas compris l'urgence des changements
climatiques. La loi 44, c'est un nouveau départ pour le ministre de l'Environnement. J'espère qu'on va le regarder à partir de ce moment-là, puis qu'on va juger à partir de ce moment-là ce qu'ils vont avoir réalisé.
Au retour, un des mots préférés de Luc Ferrandez, le mot « motion ». Toronto qui adopte une motion concernant la loi 21 au Québec sur la laïcité. Le vent, là, c'est ce qui est... Écoute, j'ai un chauffeur de la STM qui m'a écrit « Circuit sauvé, Côte-Vertu », plusieurs intersections où ils vendent tellement. Il dit, je cite, « Je me sens sur un paquebot en mer houleuse et des intersections où les feux ne sont pas non plus fonctionnels.